19h.
La semaine dernière, ça a été la grosse nouvelle de la semaine. Vous vous en souvenez, ces données personnelles chez Desjardins qui auraient malencontreusement été envoyées, on ne sait pas où. En fait, on n'a même pas encore de détails exactement pour savoir ce qui s'est passé. Mais ça fait déjà une semaine que Desjardins nous a dit qu'il y avait eu cette fuite-là. Il y a eu toutes sortes de rumeurs depuis ce temps-là, toutes sortes d'événements. Il y a des textos, des courriels qui circulent supposément de faux de chez Desjardins. D'ailleurs, soyez très attentifs, les gens qui nous écoutaient. Mais on veut parler de la protection de nos données personnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre? Et pour ça, on va aller rejoindre le spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse. Bonjour!
Bonjour, Éric.
Donc, Steve, d'abord, explique-nous un peu, là, est-ce que les compagnies font un meilleur ou un moins bon travail pour éviter les fuites? C'est quoi le travail que les entreprises font pour s'assurer que ce genre d'affaires-là se produise pas?
Ben, si on y va dans un contexte utopique, ils vont tout faire à leur moyen pour protéger les données qui se font confier par les consommateurs, évidemment. Mais cependant, s'il n'y a pas de conséquences, souvent, ils vont être à ce moment-là délinquants dès le départ, puis ils ne prendront pas tous les moyens nécessaires. Et c'est ça un peu, Éric, qui fait que c'est des situations comme ça, des fois, reviennent et reviennent fréquemment,
oui,
parce que les conséquences ne sont pas là à des gestes de négligence et de mal entretien des systèmes. Et encore, en fin de journée hier, trois grandes compagnies, Netflix,
oui,
Ford, puis la banque TD aux États-Unis, cependant, pas la banque canadienne, mais qu'eux autres aussi, chez un troisième parti, une autre compagnie qui s'occupait de faire de la statistique avec les données des consommateurs, ben, ils se sont retrouvés à héberger ça en dehors de ces grandes compagnies-là, donc où la sécurité est la mieux protégée, puis ils se retrouvaient chez eux, puis là, ben, ils ont fait une erreur de documentation, c'est-à-dire ils ont mal configuré la sécurité où étaient entreposées les données, et ça a sorti au grand jour. Donc, généralement, les compagnies donc font tout en leur pouvoir à l'intérieur, mais de plus en plus, il y a de l'impartition, ils travaillent avec des compagnies tierces, et c'est là que le maillon il s'affaiblit, et qu'après ça, il y arrive des incidents.
Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous, comme consommateurs, pour s'assurer là, qu'il y ait le moins de données possible qui coulent ou que ça soit le moins dangereux pour nous, qu'il n'y a pas personne qui essaye de nous voler notre identité ou de nous... Quels sont les trucs de base qu'on peut faire pour garder nos données le plus confidentielles possible?
C'est d'en donner le moins possible, Éric. Simplement comme ça. Je veux dire, je sais pas si ça t'est arrivé, quand tu vas au centre d'achat, tu vas t'acheter une paire de bas, puis ils te demandent vraiment où tu restes, ton adresse de courrier électronique,
un paquet de numéro de téléphone, ils te demandent un paquet de ton adresse électronique, c'est vrai. Non, oui, c'est sûr que ça arrive souvent, c'est ça. J'ai jamais compris ça, d'ailleurs. Pourquoi je m'achète une paire de souliers, puis ils ont besoin de savoir mon numéro de téléphone ou mon adresse?
Ils retiennent la publicité avec ça. C'est comme ça que c'est pour eux autres, c'est un autre moyen de faire une pièce de plus, en plus de la vente du produit, mais après ça, ils vont sur-solliciter avec la publicité. Ça, c'est classique. Mais les gens, il faut qu'on prenne conscience, puis je m'inclus là-dedans, c'est une prise de conscience collective, de s'assurer que qu'est-ce qu'on donne comme information, parce que c'est toujours sur un volet volontaire, faut pas oublier ça, les gens donnent l'information, des fois c'est inconscient, puis après ça, les grandes compagnies s'en servent, puis c'est là que ça vient nous gratter, ça vient nous mordre un petit peu par en arrière. Fait que d'en donner le moins possible, et quand on donne d'informations, c'est-à-dire quand on se fait demander de l'information, ben c'est de questionner pourquoi. Parce que si une compagnie documente, elle doit avoir dans sa possession une politique de rétention, de destruction, et n'importe quelle personne est en droit de demander à la compagnie qui détient les informations, donne-moi donc un rapport de qu'est-ce que tu possèdes sur moi. Puis on l'a vu dans les dernières années quand est arrivée l'affaire de Cambridge Analytica,
oui,
avec Facebook. Là, tout d'un coup, oh, il y a une mécanique qui s'est enclenchée chez Facebook. Puis là, tout d'un coup, tu avais accès à ton dossier. Alors, ça aurait dû être là dès le début. Fait que c'est un peu là que faut connaître qu'est-ce qu'ils ont. Et s'il y en a trop, on dit, hey, t'as pas d'affaire à voir ça, efface, efface, efface. Et à ce moment-là, ben, ça devient une gestion aussi qui est quand même assez lourde. Parce que, hey, où c'est qu'on en donne des données, Éric? On en met partout.
Partout, à tous les jours, à tout le monde. Y a-tu des... Jamais on se rend compte que notre identité a été volée ou on nous l'apprend. Si, mettons, là, je reçois, moi, la lettre que Desjardins envoie présentement à des millions de personnes, oui, là. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on sait que nos données ont été volées ou ont été coulées, là?
Bon, je vais donner un exemple réel. Avec Radio-Canada, l'an dernier, il est arrivé une fuite d'informations. Ils se sont fait voler une pièce d'équipement. Et tous les contrats de particuliers comme moi, là, je fais affaire avec Radio-Canada, ben, nos informations étaient storées dans cette base de données-là. Et les bandits sont partis avec l'appareil. Donc, Radio-Canada souscrit au même programme que les gens vont recevoir avec Desjardins, c'est-à-dire d'avoir une protection du dossier de crédit. C'est-à-dire, cette compagnie-là va monitorer tout ce qui arrive à un dossier de crédit. Ils savent qu'est-ce qui s'est fait voler, donc mes informations de nominative, aussi simple que ça. Et si jamais j'ai un différent, quelqu'un, moi je dis que hey, non, 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 c'est pas moi qui ai été dépensé au magasin X, c'est que j'ai jamais dépensé là. Equifax est là pour backer un peu qu'est-ce que j'ai à dire, dans le sens que, ben, avec les informations, le délit qui a été commis, c'est fort probable que oui, c'est à cause de cet incident-là. Ben, à ce moment-là, ça va être facile de dire, ben, institution, remboursez-le parce que c'est pas de sa faute. C'est à ça que ça sert. Et donc, les gens présentement, je sais qu'il y en a qui n'ont pas reçu de lettre. Et cette lettre-là contient un code d'activation qu'une fois reçu, on vous invite d'aller chez le site web de Equifax, vous créez un compte. Et après coup, entrez le numéro de validation qui apparaît sur cette lettre-là qui apparaît dans votre poste conventionnel, dans votre boîte aux mails que je cherchais, et qui va vous permettre à ce moment-là de remplir l'information de base. Et pour les 5 prochaines années, heureusement, ils ont mis ça à 5 ans, vous allez être en mesure d'avoir ce genre de filet de protection.
Mais là, c'est ça, une semaine après que le scandale a éclaté, il y a beaucoup de gens qui sont justement que leurs données, il y a eu une fuite, mais ils n'ont pas encore reçu là, ce fameux code de sécurité là, de la part de Desjardins pour qu'ils puissent savoir avec Equifax là, si tout est correct ou pas. Est-ce que c'est raisonnable ou déraisonnable comme laps de temps? Combien de temps que ça peut prendre là, avant qu'on puisse avoir nos codes?
Moi, je dis, Eric, puis je le répète parce que je l'ai dit un matin sur une autre chaîne, c'est déraisonnable parce que il le savait depuis des mois parce qu'il y avait l'enquête qui était en cours et il aurait pu préparer, avoir une équipe isolée, puis préparer ça, là. Et quand il arrivait le jour de la conférence de presse, il aurait pu à ce moment-là peser sur scène, envoyer ça à tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah, mais c'est beaucoup, 3 millions, ben, un peu, là. Tout le monde, quand c'est le temps, là, d'aller avertir la clientèle, de dire, hey, on augmente vos charges sur vos comptes, là. Ça sort-tu pas assez vite? Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un manque soit d'anticipation, d'organisation. Je veux pas mettre le blâme de personne, mais si je serais à leur place, j'aurais fait ça comme ça. C'est-à-dire, pendant que toute l'enquête se poursuit, on connaît qui a été impacté. Les 40% des membres, ben, Christy, on prépare tout ça, on met des belles enveloppes, tout ça, puis la journée que ça se déclare, ouin, le lendemain, c'est parti dans boîte à mal. Fait que ça aurait pris 3 jours, tout le monde aurait eu cette information.
Oui.
Peut-être 5, parce que des fois, il y en a qui restent plus loin. Mais pareil, c'est pas grave, ça aurait été ça au moins
instantané,
une semaine.
Ou à peu près. Plus, ça fait plus qu'une semaine. Puis là, je vais demander d'ailleurs aux auditeurs, ceux qui savent là, que leurs données ont été coulées, est-ce que vous avez reçu votre code, oui ou non? Pour avoir l'information, la protection offerte par Equifax de la part de Desjardins. Textez-nous au 25226 ou écrivez-nous studio@fm93.com. Est-ce que oui ou non, Desjardins vous a envoyé le code? L'avez-vous reçu? Parce qu'ils vont vous dire qu'il est dans mal, là, mais ça fait plus qu'une semaine. Là. Post Canada sont slow, mais pas à ce point-là. Là.
Non,
c'est pas ça le problème. Là. Alors, il y a des gens qui nous écrivent. Là, tu vois, c'est juste des noms qui rentrent, Steve. Les gens qui savent,
ils n'ont rien reçu. Ça confirme que ce que moi aussi j'ai du côté de Montréal, qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui l'ont reçu encore.
Mais là, je rêve-tu?
Ah, il y en a un qui vient de le recevoir. Excusez-moi, j'ai à peu près 15-20 personnes qui m'ont répondu, là, puis il y en a un qui dit qu'il l'a reçu aujourd'hui.
OK. Je rêve-tu où Equifax s'est pogné un très, très gros contrat avec cette affaire-là?
Ben, Equifax, je veux dire, c'est le façon de survivre un peu. C'est le modèle d'affaires avec lequel les autres, ils valident l'information, ils valident les codes de crédit. Puis tout le monde faisait un petit peu des farces là-dessus la semaine dernière quand tout le monde a su que c'est Equifax qui s'occuperait de la sécurité
parce
des comptes.
Eux autres aussi, il y avait eu un coulage. Eux-mêmes ont été victimes de ça. C'est quand même bizarre, ceux qui ont choisi une firme qui avait vécu ce problème-là.
Oui, moi aussi, je suis un petit peu surpris. Cependant, la nature de la brèche n'est pas la même que Desjardins a subi parce que ils ont fait un mauvais entretien du système informatique. Il y a même eu un délit d'initié là-dedans parce que c'est un des officiers de la compagnie qui a dit « Hey, attends un peu, patch pas ça tout de suite ». Ça a pris quelques jours, puis après ça, ils ont dit « OK, corrige ça ». Mais 143 millions de pièces de matériel ont été quand même fuit, dont 600 000 Canadiens qui ont été impactés là-dedans. Fait que ça est encore là. Puis ça, c'est la même faille, en passant, que Revenu Canada et Statistique Canada avaient subi. Puis pendant la période des impôts, ils avaient fermé le serveur pour corriger tout ça. Ça a pris 3 jours, puis tout était disponible après ça. Fait que eux autres, ils ont fait un bon coup, ils ont réagi rapidement. Puis pendant ce temps-là, la même faille... Equifax, les autres, ils anticipaient que ça se passait pas chez eux, puis là, tout d'un coup, ils ont découvert ça. Fait que ça, des fois, il y a des choses comme ça bizarres, puis quand tu me reviens avec la question que tu me posais, Eric, tout à l'heure, comme oui. Qu'est-ce qu'ils font, les compagnies? Oui. Bien souvent, il y a un petit peu de complaisance là-dedans parce qu'ils se disent bah ça arrivera jamais chez nous. Et surtout ici au Québec, je l'entends souvent quand je vois chez des entreprises. Ah ouais. Ben pourquoi faudrait paniquer avec une menace informatique? Ça arrive juste ailleurs. Ou bien qu'est-ce qu'ils ont à voler chez nous? On n'a pas grand-chose, on est une petite compagnie. Ben gardons ça. Peu importe la grandeur de la compagnie, il y a toujours une pièce d'information à aller dérober pour s'en servir à des fins criminelles à l'extérieur du pays.
Bon, j'ai peut-être une bonne nouvelle, Steve, là, parce que je suis en train de lire les textos qui rentrent. On doit en avoir à peu près 60-70 qui sont rentrés dans les dernières 3-4 minutes. Là. Et on a 4 personnes qui me disent qu'ils ont reçu aujourd'hui. Puis deux
autres. Wow, c'est bien.
Donc, ça commence, j'imagine que ça commence à rentrer. Puis il y a quelqu'un aussi qui nous écrit qu'ils ont commencé à livrer, là, parce que ça, j'imagine, c'est quelqu'un qui travaille pour Post-Canada, là, il dit qu'ils sont en train de les livrer au moment où on se parle. Donc, c'est en train de se faire présentement, ça veut dire qu'en début de semaine prochaine, mais à cause de la fête du Canada, ça sera pas lundi, là, mais à compter de mardi, les gens devraient normalement recevoir leur code. Là.
C'est ça. Ben, il reste le contre-penchant là-dedans, le temps que ça, les gens n'ont pas cette protection-là, ben ils peuvent pas, en tout cas, on verra, là, dans le temps va le dire, mais cependant, c'est une opportunité en or de ceux qui ont pris les informations puis de s'en servir alors que personne ne peut contre-valider. Puis ça donne une période d'incertitude, donc 2-3 semaines d'incertitude depuis la brèche qui a été déclarée jusqu'à aujourd'hui que les faussaires peuvent... Puis c'est pour ça que je te dis, je l'ai vu aujourd'hui, des textos qui ont commencé à rentrer, mais là, même s'il n'y aurait pas eu la brèche, il y aurait eu des textos à caractère de criminel qui auraient rentré là, pour faire de la fraude. Là. Fait que ça, c'est un parallèle, mais ça donne drôle que... Encore là, une question de timing, une personne que son compte a été compromis, puis là, il commence à se faire solliciter par texto. Je le prends que c'est pas mal en relation, les deux.
Oui, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent ça aussi. C'est drôle que tu parles de ça. Ah, là, il y a du monde qui nous écrivent qui ont reçu des textos, puis qui ne recevaient pas ça avant. Fait que là, ils trouvent ça vraiment bizarre. Il y a un facteur qui m'écrit qu'il a livré à peu près le quart de ce qu'ils ont à livrer pour les gens qui se sont fait que l'information a été coulée, là. Donc, il resterait 75% du monde qui l'ont poursu. Fait que si vous l'avez poursu, vous n'êtes pas tout seul. Là.
C'est très ironique aussi qu'on parle de sécurité puis que la façon, encore aujourd'hui, la plus sûre, c'est d'envoyer une lettre à la poste.
C'est vrai, ah il oui, y a quelque chose de paradoxal là-dedans, non?
Oui, exactement. Et ça, je peux te dire, une partie de la réponse là, provient aussi de la façon d'utiliser l'ordinateur, d'utiliser l'informatique. Au début des années 2000, quand au gouvernement fédéral, on a intégré une technologie pour être capable de se départir d'une signature manuscrite, ben ça a été implanté, puis il y avait un projet qui travaillait au gouvernement fédéral de le répandre cela à travers le pays pour s'authentifier, ça deviendrait la carte d'identité nationale et on éliminerait le papier. Pareil comme l'Estonie a fait, puis d'autres pays dans le monde. Et les quelques essais qui ont été faits à ce moment-là n'ont pas prouvé que les gens étaient prêts, c'est ça qui est plate, à recevoir, à utiliser cette technologie-là pour être capable, donc, d'éliminer justement le courrier conventionnel et sécuriser davantage le courrier électronique, donc la communication entre le citoyen et le gouvernement. Et ça n'a pas été repris depuis des années, puis je ne sais pas si éventuellement on va s'en départir comme ça. Fait que oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est encore la lettre papier, c'est-à-dire dans boîte à mal, qui est plus valide qu'un courrier électronique.
Là, je pense que c'est quelqu'un de chez Desjardins qui nous écrit qu'il y a 300 000 lettres qui partent par jour, que c'est par ordre alphabétique, puis que c'est ça, ils n'ont le quart de parti. Fait que ça veut dire que si votre nom de famille commence par Z ou par W, comme Waterhouse, mais ça veut dire que Steve, d'après moi, tu vas être correct, tu vas le recevoir avant Noël.
Ouais. Fait que ça, c'est sûr, mais je suis rassuré, à date, je n'en recevrai pas en principe.
En principe, t'es pas dans la fraude, toi. Bon, ben, non. Steve Waterhouse, toujours un plaisir de se parler. Merci beaucoup de nous avoir éclairés.
C'est un plaisir. Bonne fin de semaine. Soyez prudents.
Toi aussi, bye. C'était Steve.